Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Et on se retrouve dans un instant avec notre invitée du jour, Sophie Davant. Beaucoup de choses, beaucoup d'actualités pour Sophie Davant, évidemment. Le Téléthon qui va démarrer vendredi 4 décembre, vendredi prochain. Et puis un nouveau magazine, un magazine papier pour Sophie Davant. On va parler de tout cela avec elle. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Bon, vous allez bien.
Ça vous amuse parce que j'écoute la musique, je danse.
Ouais, oui, bah, après 4 ans, vous amusez encore sur de la musique. Je me dis que vous avez une âme d'enfant. Notre invité aujourd'hui.
Hier, j'ai fait un truc incroyable hier, si vous voulez savoir. J'ai goûté par un sommelier les premiers vins sans alcool qu'un sommelier a fait. Ça s'appelle Le Petit Béret, c'est à Béziers. Et donc, j'ai fait une dégustation.
C'est bien de faire de la pub. Notre invité, mais qui aime le vin d'ailleurs, c'est Sophie Davant. Bonjour Sophie.
Vous voyez. Bonjour, c'est
mais
vrai.
Je pense que vous préférez le vin avec de l'alcool, sans dévoiler.
Un petit cep pour les vins de Bordeaux, vous le savez.
Voilà, absolument. Bonjour Sophie, vous allez bien?
Bonjour.
Vous êtes en forme?
Oui, ça va. En pleine préparation, voilà, j'ai un petit peu de boulot.
Un petit peu de boulot. Mm-hmm. Vous avez effectivement une actualité très chargée. Il y a Affaires conclues, évidemment, tous les jours qui cartonnent sur France 2 tous les après-midi. Votre magazine, S Magazine, le magazine de Sophie Davant. Et puis le Téléthon, donc vendredi, samedi, évidemment, depuis 34 ans, cette édition du Téléthon qui est là. Vous êtes vous aussi fidèle au poste. Donc on se prépare comment cette semaine? On vous pose un petit peu toujours les mêmes questions chaque année, mais,
Regardez, montrez-moi. Il y a une image. Vous voyez là ce qu'il y a dans ce petit. Voilà, vous voyez toutes ces fiches là, c'est à peu près la moitié de ce qu'on a ingurgité avant. Donc voilà, on se prépare comme ça. On lit. On a des réunions avec les chercheurs, avec la présidente de l'AFM. On lit ce qui s'est fait, on regarde les reportages et on est inquiet cette année en particulier parce que vu le contexte et la crise sanitaire, il y a, vous savez, normalement le Téléthon c'est le premier vecteur de lien social en France. Il y a 12 000 communes qui participent, 250 000 manifestations sur le terrain et une grande partie du compteur repose sur ces manifestations. Donc cette année elles n'auront pas lieu, on le comprend, et donc à nous d'être convaincants pour tenter de convaincre les gens qu'ils peuvent donner autrement. Voilà, ouais. Et c'est très émouvant pour moi, en tout cas, qui suis là depuis le début, de voir que l'espoir se concrétise. On va vous montrer quand même des enfants qui ont bénéficié d'une injection de thérapie génique, des enfants qui avaient une espérance de vie limitée à 2 ans et qui aujourd'hui non seulement vivent, mais recouvrent la force de leur mouvement. Donc on a plein d'exemples comme ça à vous montrer pour vous démontrer que les pistes de recherche initiées par l'Association française contre l'hémiopathie portent leurs fruits grâce à l'argent des Français.
Oui, qu'il y a des avancées médicales extrêmement importantes. On va en reparler. Effectivement, vous avez raison de le dire, c'est une année très particulière. Crise sanitaire oblige, donc beaucoup de choses ne pourront pas, beaucoup d'événements ne pourront pas avoir lieu. Et puis, crise financière également. Je pense que les associations, d'une manière générale, sont un peu inquiètes. Mais juste avant qu'on reparle du Téléthon, Gilles, vous avez regardé la télévision pour nous hier soir et on va passer au zapping.
Sud Radio, 10h midi. Média, l'instant zapping.
Valérie, Sophie, elle avait les yeux verts, malicieux, et maniait la plume comme personne. Anne Sylvestre est décédée à l'âge de 86 ans. Alors, elle ravissait les petits avec ses fabulettes, mais aussi les adultes, comme avec cette chanson. Écoutez bien, une chanson magnifique sur le doute.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
Voilà, c'était Anne Sylvestre, effectivement. Vous l'écoutiez, vous aussi, Sophie?
Bien sûr, les fabulettes d'Anne Sylvestre. Moi, j'ai été bercée toute mon enfance avec Anne Sylvestre. C'était merveilleux.
Oui, mais il y a eu effectivement d'autres chansons. Elle était très connue pour ses fabulettes, mais c'était une femme engagée, militante, féministe, avec des chansons vraiment très très belles. Gilles, pardon.
Et je continue avec Anne Sylvestre. Je vous ai retrouvé un extrait de la femme engagée féministe, mais aussi qui pratiquait beaucoup l'humour et l'ironie. Comme vous allez voir dans cet extrait, c'était à apostrophe. Elle parlait avec ironie. Elle en avait fait une chanson d'ailleurs sur l'année de la femme.
Pourquoi c'est une chanson contre l'année de la femme? Alors pourquoi vous n'êtes pas misogyne, vous, quand même?
Justement, s'il faut vraiment qu'on accorde une année à toutes les catégories animales qui en ont besoin, qui sont en détresse, alors je pense que les vaches en ont beaucoup plus besoin que nous, dans l'ordre d'urgence.
Est-ce que vous pensez que les femmes sont une catégorie animale?
De cette façon-là, oui. Parce que, écoutez quand même, les vaches... La treilleuse électrique, c'est tout le temps pour elle. Nous, c'est de temps en temps seulement. Oui. Mais pas toutes. Puis nos enfants, ils vont pas tous à la casserole.
Voilà.
C'était un joli moment d'ironie.
Je suis pas loin d'être d'accord avec elle, mais bon, on va pas en débattre. Allez-y, Gilles, continue.
Je vous reconnais bien là, Valérie. Lundi, je vous parlais dans le zapping de l'accident impressionnant du pilote de Formule 1, Romain Grosjean. Eh bien, hier, il témoignait en exclusivité dans le 13h de Jean-Pierre Pernaut.
C'était pas mon heure. Oui, ça m'a paru bien plus long que 28 secondes. Et puis, je vois ma visière qui devient toute orange. Je vois les flammes sur le côté gauche de la voiture. Là, j'ai pensé à beaucoup de choses. Notamment Niki Lauda, en me disant c'est pas possible, je peux pas finir comme ça, pas maintenant, je peux pas finir mon histoire en Formule 1 comme ça. Et là, pour mes enfants, j'ai dit il faut que je sorte. J'ai mis les mains dans le feu, donc j'ai clairement senti que les mains étaient en train de brûler sur le châssis. Et puis j'ai sorti, ensuite j'ai senti quelqu'un qui me tirait sur la combinaison, donc j'ai compris que j'étais dehors.
Et puis sur BFM, alors cette grand-mère, je ne sais pas ce que vous allez faire à Noël, Sophie, mais en tout cas, cette grand-mère de 10 petits-enfants a décidé, Covid oblige, à faire 3 Noëls sur 2 jours pour éviter de se rassembler en famille.
Alors cette année, ça va être différent des années précédentes, parce qu'effectivement, les années précédentes, on était 21 au total, hein, en comptant les grands-parents, parents et petits-enfants. Tout d'abord, le 24, on va aller chez l'une de nos filles, hein, où se trouve son compagnon et ses enfants, donc on va passer un moment. Ce sera un goûter peut-être dînatoire. Ensuite, on ira dans une autre maison où on retrouvera deux autres filles avec conjoints et enfants pour passer le reste de la soirée. Et le lendemain, on retrouvera une autre famille, donc une autre fille avec ses enfants en Île-de-France, un peu plus loin. On va faire 3 fois Noël.
C'est incroyable hein, quand même ce Noël.
Mais enfin, ça va faire beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde quand même.
Oui.
Au final.
Et vous, Sophie, vous avez fêté Noël comment? Alors en famille ou vous allez prendre vos distances?
Moi, je ne vais pas aller dans ma famille à Bordeaux. Je vais rester tranquille avec mes enfants. Voilà, je vais éviter de se mélanger parce que sinon on est trop nombreux aussi. Et puis, bon, moi j'ai des enfants grands, donc les fêtes de Noël n'ont pas le même sens qu'autrefois.
Ils sont petits, oui, absolument. Ouais. Allez, Gilles, on conclut.
On conclut avec un Noël pas comme les autres, donc moqué aussi par... Alors vous savez, vous connaissez, je vous en avais parlé durant le premier confinement, vous savez ce couple qui s'appelle Creustel, qui détourne et qui font des parodies de films, eh bien ils en ont fait une nouvelle, ici ils ont doublé Pierre Richard et Mireille d'Arc dans la fameuse scène, vous savez, où elle porte la robe avec un dos très découvert, voici cette parodie qui est plutôt drôle.
Un peu de champagne, ça fait du bien.
Oui, c'est vrai.
Joyeux anniversaire, Hubert. Je suis navrée que les restaurants soient toujours fermés.
Comment font les gens pour manger tous les jours chez eux? Je suis inquiet pour notre réveillon à Courchevel, tu sais.
Quel enfer!
Que va-t-on faire sans tire fesses?
On peut faire de la luche.
Comme les pauvres.
Voilà, la luge comme les pauvres.
Vous,
bah oui, pas de ski cette année.
Vous faites de la luge.
Non, Sophie est une excellente skieuse. Ça vous manque? Ça va vous manquer?
Bah, moi, je voulais y aller début janvier, mais bon.
On va voir. Non, mais on va en reparler. Vous allez voir que c'était compliqué. Alors, on a une question de Sébastien qui dit bonjour à vous. Est-ce que Sophie se souvient des sœurs Bauders qui jouaient au piano, de Lucille Carrasco avec son superbe défilé de mode, et puis de Jeanne, magnifique femme avec un tel courage. Il y a eu tellement de gens, tellement de belles choses. Là, il évoque quelques belles personnes, effectivement. Vous vous souvenez de...
Bien sûr, je me souviens. Ouais. J'ai gardé des contacts très étroits avec Jeanne, notamment. Lucie Carrasco, ouais. Elle est venue plusieurs années sur le Téléthon. Ouais. On avait même fait un défilé de mode, bien sûr que je me souviens. Ouais. Le Téléthon, c'est ça, c'est des rangs. Moi, je suis liée à cette association, à ces familles, et j'ai un devoir de responsabilité envers elles.
Ouais. Qu'est-ce qui va changer cette année le démarrage 18h45 vendredi, que la force soit avec nous sur France 2, coup d'envoi avec Nagui, Matt Pokora sera à vos côtés, ce sera le parrain du Téléthon, donc ces 30 heures de direct qui vont être, vous le disiez tout à l'heure, légèrement modifiées puisqu'il n'y aura pas tous ces événements, donc comment récolter de l'argent, comment solliciter les dons qui sont indispensables.
Alors, ce qui va changer, c'est qu'on ne sera pas dans notre bulle habituelle, quelque part dans un endroit merveilleux de Paris. On va être dans un studio conçu pour respecter toutes les normes de sécurité sanitaire. Ce qui va changer, c'est justement de trouver le moyen de compenser ce manque à gagner du terrain en proposant aux téléspectateurs d'acheter un ticket pour participer à une tombola et peut-être avoir la chance de gagner l'œuvre d'art de leur choix, une participation aussi sur Internet. Il y a des tas de challenges organisés sur le net pour la collecte. Et puis, vous parliez de ces belles rencontres de Lucie Carrasco, de Jeanne, etc. Moi, je pense justement à tous ces malades qui doivent regarder aujourd'hui les progrès de la recherche avec émotion. Vous imaginez bien que ces malades avaient une amyotrophie spinale ou une myopathie de Duchenne. Et ils voient aujourd'hui que des médicaments existent et qu'on commence à traiter des enfants. Moi, je pense à tous ces gens-là. Je pense à tous ces parents qui ont perdu leur enfant et qui voient aujourd'hui les progrès de la recherche qui se concrétisent. Et je voudrais faire comprendre aux Français que l'argent qu'ils donnent, eh bien, sert à fabriquer des médicaments, à trouver des médicaments, on va leur prouver. Et puis aussi, tous les progrès de la recherche rejaillissent sur des maladies plus communément répandues, des cancers, des maladies de la vue, des maladies du vieillissement, des maladies cardiovasculaires, des maladies du muscle. Donc tout ça, personne n'est à l'abri d'une part à l'abri des maladies génétiques éventuelles dans une famille. Et puis de toute façon, tout le monde profitera des progrès de la recherche. Donc voilà, oui, notre boulot, c'est de les convaincre.
Ouais, juste une chose. Pardon. Il y a de la défiance vis-à-vis vis-à-vis des labos, en particulier avec toutes les polémiques autour du Covid. On a une auditrice qui dit « Quelle honte, vous engraissez les labos ». Et je trouve triste cette réflexion, Martine, parce que les labos, cette espèce de diabolisation, Big Pharma, tout ce qu'il y a autour de ça, c'est quand même grâce aux médicaments qu'on se soigne. C'est grâce à ces labos qu'il y a des progrès qui ont été faits. On n'a jamais vécu aussi longtemps et dans d'aussi bonnes, en aussi bonne santé. Donc je trouve dommage et j'espère que voilà toutes ces polémiques qu'il y a pu y avoir autour des scientifiques autour du Covid ne vont pas jeter le discrédit. Et vous l'avez dit, Sophie, il faut montrer que la science, ça marche, les labos
Alors, juste
travaillent.
Une précision. Ouais. Valérie, une précision vraiment importante puisqu'on parle du Covid. Sachez que les vaccins, certains vaccins là qui sont en train d'être finalisés, eh bien ces vaccins profitent des progrès de la recherche en thérapie génique. C'est le même principe que la thérapie génique, puisqu'on va inoculer un gène avec un vecteur. Et ça, c'est une technique qui a été élaborée par les chercheurs au Généthon. Généthon financé par les Français. Donc voici un exemple concret. Quand on vous dit que ces progrès de la recherche rejaillissent sur d'autres maladies, on a là un exemple concret.
Oui, et c'est absolument important de le préciser. Pardon Gilles, allez-y.
Non, mais c'était ma question. En effet, la technique de l'ARN a été développée grâce au Téléthon. Cette technique, vous savez, qui permet de modifier la cellule, en tout cas en surface. J'avais une question sur l'organisation. On m'a expliqué en fait que les familles allaient rester entre elles parce que évidemment, avoir des malades de la myopathie ils sont plus sensibles au virus. Donc j'imagine que vous avez mis en place des mesures assez incroyables pour les protéger.
Oui, on a un système dans le décor avec des parois. Ils seront chacun dans un endroit réservé à chaque famille. Bah oui, parce que les maladies, ce sont des maladies souvent dégénératives et le système respiratoire est souvent attaqué. Donc, vous imaginez bien qu'au contact d'un virus comme le Covid, ça pose des problèmes.
Oui, donc 30 heures de direct avec des émissions à la fois sur France 2 et sur France 3. Il va y avoir des documentaires, des points qui seront faits sur ce Téléthon. Et puis il y a également une sorte de vente aux enchères sans personnalité qui ont accepté de participer et de donner un objet ou d'offrir un moment comme Stéphane Bern, une visite d'un endroit exceptionnel. Et donc ça, c'est une manière intelligente de récolter de l'argent également.
Oui, et puis il faut déculpabiliser les Français. On sait bien que les temps sont difficiles. Et, par exemple, l'argent qu'ils donnaient sur le terrain en allant acheter des crêpes, c'était le grand truc du Téléthon, les crêpes, les pizzas géantes, les raclettes, etc. C'était un moment convivial où les gens se retrouvaient. Ils dépensaient peut-être 10 euros pour acheter des crêpes. Eh bien, qu'ils donnent ces 10 euros, même si c'est 10 euros, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc on va aussi leur expliquer ça, qu'il faut pas qu'il y ait ce défi à la fin sur le compteur.
Ouais.
Donc tout ça pour vous dire que nous, avec Nagui et les animateurs de France Télévisions, on a une responsabilité accrue cette année. Voilà.
Et oui, il va falloir mobiliser, comme le disait Gérard Holmes.
Parce que autant de millions en moins, et là on parle quand même, c'est quand même 40% du compteur hein, qui venait du terrain, donc c'est beaucoup qui venait des forces Téléthon. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Autant de millions en moins, c'est autant de programmes de recherche en moins dans l'année. Donc, c'est quand même très grave parce que ça voudrait dire que des programmes de recherche lancés grâce à l'argent des Français il y a 3-4 ans pourraient s'arrêter. Il faut longtemps après pour relancer.
Mais justement, Sophie, est-ce que ça n'aurait pas été une solution d'attendre la fin du Covid pour éviter ça et se dire que faisons-le cet été et faisons un grand Téléthon cet été et on aurait mobilisé peut-être toute la France plutôt que de le faire en n'ayant peut-être pas assez de dons?
C'est pas à moi de répondre à cette question-là. Vous savez, c'est compliqué d'organiser le Téléthon. Décembre est un mois particulier où, en général, on sollicite la générosité des gens à ce moment-là parce que on est peut-être plus sensible à la douleur des autres à ce moment-là. Et la FM me disait que, vous savez, c'est souvent dans des contextes extrêmement difficiles. Et nous, on sait de quoi on parle au Téléthon. Ça fait quelques années qu'on a les manifestations des Gilets jaunes. On a eu aussi le décès de Johnny Hallyday, en face du Téléthon. Donc, on connaît ces situations difficiles. Et c'est souvent, c'est dans les situations difficiles que les gens font encore plus preuve d'empathie et de générosité. Voilà, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut être solidaire et uni. Voilà, et le Téléthon est le bon vecteur pour ça.
Ouais, moi je suis désespérée et en colère par certains messages de nos auditeurs qui disent c'est de l'arnaque, on enrichit les labos. Franchement, ça me met très en colère et je vous assure que je me retiens pour ne pas exploser parce que je trouve ça absolument immonde quand on suit le Téléthon, quand on voit les progrès qui ont été faits, quand on voit la recherche, ça sert à quelque chose, qu'il y a des chercheurs dans ces labos. Je trouve franchement que vous êtes dégueulasse, je le dis franchement, auditeurs qui dites cela. Non, mais ça me met très en colère parce que quand on voit l'investissement, enfin, Sophie fait ça depuis des années de façon très professionnelle et très engagée, on l'a entendu. Non, le Téléthon, c'est pas de l'arnaque. Oui, il y a des progrès et oui, vous allez le voir.
Et en plus, les comptes sont extrêmement transparents. On publie les comptes régulièrement. Juste pour vous donner quelques chiffres, il y a 38 essais en cours sur l'homme pour 31 maladies en ce moment. L'AFM, outre les programmes dans ses outils, ses bras armés comme le Généton, l'Institut de myologie et ISTEM, l'Institut des cellules souches, l'AFM finance 200 programmes de recherche. Donc voilà, c'est pas donner de l'argent à des labos, c'est financer des travaux de chercheurs qui vont déboucher sur des médicaments et des autorisations de mise sur le marché et qu'on va pouvoir traiter un enfant avec une injection, une piqûre, vous imaginez ce que c'est? Un enfant qui devait mourir 2 ans après sa naissance au maximum.
Donc, alors on nous parle également des tests sur les animaux, ça revient beaucoup. Alors c'est
sachez que l'AFM ne pratique des tests que sur des animaux déjà touchés par la maladie. Voilà, on prend pas des animaux qui vont bien pour les rendre malades et les traiter ensuite. Donc ce sont des animaux qui ont des myopathies ou des anomalies, des maladies génétiques, etc. Et puis après il y a tout un processus pour valider un médicament avant de passer à l'homme. Vous l'imaginez bien, c'est compliqué. Donc bien sûr que c'est regrettable, mais les animaux ne souffrent pas plus. On essaie de les traiter, ils sont déjà malades.
Oui, voilà. Bon, précision faite. Je voulais qu'on parle de votre magazine.
S-Magazine,
le magazine, comme il y a O de Oprah Winfrey, il y a S-Magazine. Ouais. Donc, c'est une autre actualité. Donc, c'est un projet. On vous a entendu plusieurs fois dire que ça vous était tombé dessus un petit peu par hasard. Et puis que vous l'auriez jamais imaginé.
Non seulement je l'aurais jamais imaginé, mais j'aurais jamais imaginé appeler un magazine S, le magazine de Sophie d'avant. Donc ça m'est un peu, c'est vrai, tombé dessus, on m'a fait cette proposition, je croyais qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Mmh. Et puis ils sont revenus vers moi quelques mois plus tard, et on avait réfléchi, on était d'accord sur une éditoriale. Et puis voilà, je me suis dit, c'est formidable, c'est une autre expérience, c'est une autre corde à mon arc. J'aime bien écrire, donc je m'amuse, je prends un plaisir différent sur un autre support, voilà. Alors après ce premier numéro, dont on est assez fier quand même, parce qu'il y a beaucoup de contenu, et je voulais faire un magazine intéressant.
Qui vous ressemble beaucoup, qui s'adresse aux femmes de 40, 50 ans. Vous aviez écrit un livre d'ailleurs, et plus, est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé un petit peu, qu'on considère un petit peu plus ces femmes qui ont plus de 50 ans, 60 ans, qui étaient considérées avant comme des mamies et qui n'en sont pas?
C'est vrai qu'on a changé. C'est vrai qu'en 20 ans, il y a une révolution incroyable. On a changé physiquement. On est des gamines aujourd'hui à 50 ans. Et moi, c'est bien le genre de message que j'ai envie de porter avec ce magazine. J'ai envie que les femmes le lisent en se disant « Pourquoi pas moi ? Pourquoi moi, je m'autoriserais pas ça ? Pourquoi moi, je ne m'habillerais pas comme ça ? Moi, je suis pas un mannequin. Je suis une femme comme elle. C'est pour ça que je pense qu'elle se projette. Pourquoi moi, je n'aurais pas cette expérience ? Pourquoi moi, je ne me libérerai pas psychologiquement. » Donc, on essaie de les déculpabiliser et de leur donner envie de vivre et de montrer qu'elles sont encore actives, belles, qu'elles peuvent encore tomber amoureuses, qu'elles peuvent se faire plaisir. Voilà.
Et que le départ des enfants n'est pas forcément quelque chose. Ils vous en ont pas voulu, vos enfants, quand vous avez dit à la télévision l'autre jour que c'était pas si mal que ça qu'ils soient partis. Ils vous ont pas fait de reproches?
Ils le savent parce que je les ai quand même un peu poussés là dernièrement, ma fille à prendre un appartement. Mais bon, ça veut pas dire que je n'aime pas mes enfants, je les adore, j'adore les retrouver quand on en a tous en vie, quoi. Voilà, et c'est formidable, c'est encore mieux plutôt que de se subir. Il y a un moment, ils sont des adultes et cohabiter avec des adultes, c'est pas évident. Quoi, voilà. Et je me sentais plus.
Ça doit pas être simple non plus. Ça doit pas être simple d'avoir une mère connue aussi, hein. D'avoir une mère comme Sophie d'avant.
Ça, c'est une autre problématique. Ouais. Mais à un moment donné, je me sentais plus chez eux que chez moi, donc il y avait un petit problème, quoi. Donc j'avais envie de retrouver un univers à moi toute seule.
Voilà, beaucoup de compliments pour vous, Sophie. Beaucoup de gens qui nous disent, par exemple Sébastien dit, je me souviens de Monsieur Barato, c'était la dernière heure, il y avait une personne qui est allée sur scène qui donnait un billet en main propre. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été très émus par certaines scènes.
Vous parlez Valérie de Monsieur Barato, qui était le président de l'AFM. C'est lui qui a initié le Téléthon avec Pierre Birambeau. Et Bernard, il a perdu 2 enfants. Il m'a écrit un message hier. Il m'a dit, tu te rends compte ce qui se passe en ce moment? Tu te rends compte qu'on a guéri des enfants? Donc moi, je pense aussi à eux, à tous ces parents qui voient avec une émotion incroyable ces progrès-là. Voilà.
Ouais. Bon. Essayez, oui, oui. Bah, c'est en tout cas, vous l'avez dit, les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Donc, on peut donner un peu, 10 euros, bien vous sûr. Le disiez, et alimenter. Et puis, se renseigner et ne pas rester bloqué. Moi, je cherche aussi. On se fait engueuler aussi parce qu'on nous dit que c'est pas vrai que les filles ont des homéopathies. Vincent Mathieu dit si, c'est pas compliqué de chercher. Et il nous met un lien sur France TV Info, des chiens atteints de myopathie reprennent des forces grâce à un traitement bien expérimental. Sûr, donc ne restez pas sur des idées reçues, voyez les images de ces enfants qui sont guéris, de la science qui avance, et on sera avec vous, Sophie, avec Nagui, avec Matt Pokora, dès vendredi pour ces 30 heures de Téléthon.
Et puis Valérie, rappelons le 3637 pour
absolument,
pour les
dons. Le fameux
3637.
Numéro.
Et vous pouvez déjà aller sur le site star-solidaire.com et vous verrez les 100 personnalités. Absolument. Vous pouvez déjà faire des enchères et regarder tout ça. Valérie, j'ai cherché quelque chose. Je voulais acheter un blouson, une robe à vous. Bah, j'ai pas trouvé. Je suis
mais j'ai
déçue,
pas été sollicité, mais j'aurais donné.
Ah,
très
faut
volontiers.
Donner quelque voilà. chose. Valérie.
Voilà.
Et
ben, je donnerai.
On peut donner aussi sur téléthon.fr. Voilà.
Merci.
Et essayez de convaincre, de convaincre ceux qui partageaient les manifestations avec vous pour faire des petits dons. Mais voilà, c'est tous ces petits dons cumulés qui feront de belles choses à l'arrivée.
Qui feront qu'à l'arrivée, le compteur explosera. Merci beaucoup, Sophie Davant. On vous retrouve tous les jours dans Affaires conclues sur France 2, S Magazine bimensuel.
Il y aura un
prime, absolument. Et puis le Téléthon à partir de vendredi. Merci à vous. On se retrouve dans un tout petit instant avec un pharmacien pour parler de la vaccination. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai. Vrai Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi, on est avec vous pour débattre, commenter l'actualité et on est en ligne avec Gilles Bonnefond, bonjour. Vous êtes pharmacien à Montélimar, vous êtes président de l'USPO, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Vous êtes drôlement harnaché pour ceux qui nous suivent sur le Facebook de Sud Radio.
Oh ouais, j'essaie de vous faire peur.
Ben oui, pourquoi vous êtes équipé comme ça avec un masque, une visière, un couvre-tête
ouais,
pourquoi
Une charlotte. Tout simplement parce que je suis au centre de dépistage qu'on a monté sur Montélimar, avec la mairie, et on a des plages horaires avec les infirmiers, avec les pharmaciens, pour pouvoir faire des tests de dépistage pendant toute la semaine, du lundi au samedi matin. Donc voilà, chacun contribue.
Justement, je voulais voir avec vous comment ça se passe, quel type de test, comment est-ce que les pharmacies sont mises à contribution. En fait, j'ai eu cette idée en allant dans une pharmacie à côté de chez moi en disant « Est-ce que vous allez, vous, faire des tests ?» Et ils m'ont répondu « Bah non, ça sert à rien, on va vous tester, vous allez sortir, vous allez être contaminé, donc non, on fera pas de test. » Donc comment ça se passe? Qui fait des tests? Pourquoi? Et quel type de tests?
Alors d'abord, les tests ont démarré à peu près début novembre. En pharmacie et chez les infirmiers. Avant, c'était réservé qu'aux médecins et ensuite des tests spécifiques au laboratoire. Donc, il y a déjà plus de 6000 pharmaciens qui en font, hein, ça démarre juste, et on fait des tests antigéniques. Ouais. Donc, on peut dépister des patients qui sont symptomatiques et qui ont des symptômes depuis moins de 4 jours. Et également, mais ce n'est pas prioritaire, des patients qui sont asymptomatiques et qui veulent se faire tester parce qu'ils ont été en contact avec une personne qui a été dépistée Covid. Et à la fin de la semaine, un arrêté va être publié parce qu'on pourra aussi dépister des patients en contact à J+1 ou à J+7 en fonction si ce sont des contacts familiaux ou des contacts un petit peu plus larges. Donc en fait,
Non. Et ces tests sont fiables? Quel est le taux de fiabilité?
Alors, ils ont une spécificité à 99%, donc ils sont capables de tester le Covid seul et de ne pas le confondre avec un autre virus à 99,9%. Et le taux de fiabilité, c'est-à-dire la sensibilité, c'est 80%. Donc, ce sont des tests qui sont extrêmement fiables et qui permettent de faire des dépistages de masse avec une réponse très rapide dans le quart d'heure. Et c'est ça qui est important parce que quand on est asymptomatique, qu'on est porteur du virus, on contamine sans s'en rendre compte d'autres personnes. Et c'est ça qu'il faut arriver à casser le plus vite possible, donc casser les chaînes de contamination très rapidement.
Oui. Sur ces tests antigéniques, donc ils sont pratiqués dans des endroits spécifiques, hein, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Alors, il y a plusieurs types d'organisations. Ça peut se faire au cabinet médical. C'est assez rare parce que les médecins sont un petit peu débordés. Ça peut se faire dans les cabinets infirmiers, dans les pharmacies ou dans des centres comme on l'a mis en place à Montélimar où la mairie a mis à disposition le palais des congrès avec une salle qui fait 600 mètres carrés où on peut accueillir toute la semaine des personnes qui veulent se faire dépister. Et donc, on assure des permanences avec les infirmiers et avec les pharmaciens. Et on a des bénévoles qui nous aident pour les prises de rendez-vous et pour orienter des patients au téléphone. Donc, ça permet d'avoir une réponse sur une commune de 40 000 habitants sans qu'on se mette chacun en difficulté parce que les infirmiers, ils font ça en plus de leur boulot. Les pharmaciens, ils font ça en plus de leur boulot.
Oui, absolument. Et il y a beaucoup de monde, oui, vous le disiez, il y a beaucoup de demandes.
Et là, sur le centre, on tourne entre 450 et 350 tests par semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a de la demande. Là, voilà, il va y avoir 6 personnes qui sont dans le centre, qui ont commencé à être dépistées et d'autres qui vont l'être. Oui, ça correspond à un vrai besoin. Et on sait que quand on va arriver sur la période de fête, eh bien, les demandes vont être de plus en plus importantes. Et à la sortie des fêtes de Noël et de fin d'année, je pense que la rentrée, on aura des demandes de plus en plus importantes. Il y aura eu du brassage de population. Et là aussi, il faudra être très, très, très actif pour casser les chaînes de contamination rapidement pour qu'on ne rentre pas dans une troisième vague.
qu'on comprenne bien, le test antigénique me dit, et un peu comme le test PCR, si j'ai le virus, si je suis contagieuse.
Exactement. On détecte la présence du virus dans la sphère nasopharyngée. Donc, on fait un prélèvement avec des couvillons. On va aller au fond de la sphère nasopharyngée pour récupérer le maximum de virus. On va mettre ça dans une solution de tampon. Et ensuite, en 15 minutes, on détecte la présence du virus dans chez la personne. Donc, ce n'est pas si j'ai rencontré le virus il y a un mois, deux mois. C'est vraiment actuellement, est-ce que j'ai du virus et est-ce que je dois faire très, très attention à mon entourage.
Très bien. Si
le test est positif, on a des symptômes, c'est avec ce résultat, on va chez le médecin. Et le médecin prend en charge la personne. Si c'est négatif et qu'il y avait des symptômes, ce n'est pas le Covid, mais il faut traiter les symptômes. Donc, c'est aussi chez le médecin.
Est-ce que vous observez une baisse des contaminations ou une baisse des résultats positifs?
Oui. La première semaine, on était aux alentours de 20%, puisqu'on était dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui était certainement celle où le virus circulait le plus. Là, on descend entre 10 et 15% de patients positifs. Donc, c'est bon signe, hein, ça veut dire que les gens font attention et que l'épidémie se propage un petit peu moins. Mais il suffit de rien pour que ça redémarre.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que les fêtes de Noël vont être certainement à risque et qu'on ne sait pas du tout quelles seront les conséquences des mouvements de population. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la vaccination? Parce que je disais que les pharmaciens sur France 3 Occitanie, les pharmaciens attendent toujours d'être dans la boucle de la vaccination contre le Covid-19. Est-ce que vous y êtes favorable?
Oui, bien sûr, parce que si on veut vacciner 30 millions de Françaises et de Français en 6 mois, en 8 mois, ça ne pourra pas se faire qu'avec des cabinets médicaux. Ça ne pourra pas se faire en associant les infirmiers, les pharmaciens, éventuellement d'autres acteurs à l'hôpital ou dans les maisons de retraite, pour pouvoir vacciner ceux qui veulent se faire vacciner dans un délai rapide. Donc, bien évidemment, on aura besoin de toutes les forces et d'avoir également ceux qui vaccinent, la confiance des patients. Les pharmaciens ont vacciné 3,5 millions de personnes en un mois contre la grippe. Donc, on voit bien que les patients se vaccinent et viennent chez nous. Donc, on a besoin de tout le monde pour se vacciner.
Les vaccins contre la grippe, vous en avez manqué? Vous en avez récupéré d'autres ou il en manque toujours?
Alors, on a eu fin novembre, on n'en avait quasiment plus. Et là, l'État est en train de remettre 2 millions de doses. Donc, on en a déjà utilisé 11 millions. Et il y a 2 millions de doses supplémentaires qui sont fournies par l'État pour pouvoir finir la campagne de vaccination jusqu'à fin décembre, début janvier. Là, on va finir de vacciner toutes les personnes qui sont en EHPAD et le personnel des EHPAD qui souhaitent se vacciner. Et dans une semaine, on aura de nouveau des vaccins supplémentaires pour toute la population, d'abord celle qui est prioritaire, donc qui a reçu un bon de prise en charge de l'assurance maladie, les personnes de plus de 65 ans et ceux qui ont des pathologies chroniques. Et ensuite, on pourra aussi vacciner ceux qui souhaitent se faire vacciner parce qu'ils rencontrent des personnes âgées, parce qu'ils sont à côté d'une personne fragile et ils souhaitent se faire vacciner. Donc, cette année, gros succès. Tellement un gros succès qu'on a été en rupture. Mais l'État vient de, franchement, s'est beaucoup mobilisé pour avoir 2 millions de doses supplémentaires sur un marché où tous les pays voulaient avoir des doses supplémentaires. Bien donc, sûr. Bravo, bien joué.
Pour une fois, c'est pas mal. Et on peut se faire vacciner jusqu'à quand?
On peut se faire vacciner, bien sûr, tout le mois de décembre et même début janvier, parce que parfois, on a des pics d'épidémie de grippe qui arrivent courant février. Donc, il est encore temps de se faire vacciner en janvier.
Voilà. C'est tout. Je ne commenterai pas les commentaires. Je suis accablée par les commentaires de nos auditeurs et je crois que je vais arrêter de les regarder. Quelqu'un qui dit que vous êtes déguisée en guignol, ben le guignol en question est un pharmacien qui donne de son temps gratuitement pour aller dépister des gens. Donc je trouve que voilà, je vais arrêter les réseaux sociaux parce que je trouve que l'agressivité, la méchanceté, la haine qu'on ne peut y lire est absolument innommable. Voilà.
Regardez, il faut regarder des bons. Mais vous savez, c'est pas cette protection. Bon, il manque le masque, je l'ai enlevé pour pouvoir vous parler parce que vous ne pourriez pas m'entendre. Mais la visière, c'est pour éviter les projections. Quand on fait un prélèvement nasopharyngé, si la personne tousse, là, on a dépisté un patient positif tout à l'heure, eh bien, on est bien content de porter des gants, une charlotte, une surblouse, des visières et des masques pour se protéger. Parce que nous, il faut qu'on continue à travailler, il ne faut pas qu'on se contamine.
Les protections. Donc, il faut des protections maximales. Merci beaucoup, Gilles Bonnefond, d'avoir été avec nous, pharmacien à Montélimar, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.